Alors, racheter le temps. On a commencé dans l'adoration, dans la louange, là déjà, et Philippe, il finissait avec ça, racheter le temps. Et le chant, là, le dernier chant, enfin, l'avant-dernier chant m'a particulièrement parlé aussi, parce qu'en fait, c'est un gros programme, ça, de s'abandonner, de se soumettre au Seigneur. Est-ce qu'on va réussir? Je regardais mon oncle et je regardais les gens qui sont pour moi des modèles, et je me dis, est-ce que ma vie, elle sera consacrée à Christ? Il y a une partie de ma vie qui ne l'a pas été. Est-ce qu'à partir d'aujourd'hui, ma vie sera consacrée à Christ? Et je le souhaite, je l'espère, et je prie Dieu qu'il entende cette prière. Alors aujourd'hui, justement, inspiré aussi par les modèles, je vais vous parler de la bassesse. C'est un passage qu'on a lu à la réunion de prière. C'est Régine qui a partagé ce passage à Jean une fois et qui nous a partagé ça du coup à la réunion de prière. Donc on va prendre ensemble le psaume 12. On va prendre plusieurs passages. Je solliciterai peut-être des personnes pour lire aussi, pour économiser ma voix. Alors, le psaume 12. Vas-y, Théo. Je ne sais pas si tu peux choisir la version. Moi, c'est la seconde 21. Donc, si tu peux choisir cette version, comme ça, ce sera peut-être plus facile. Ce sera en raccord avec ce que je vais lire. C'est la seconde 21? Bon, bah, très bien. Alors, au chef de chœur sur la harpe à huit cordes, psaume de David. Sauve-nous, Éternel, car il n'y a plus d'hommes loyaux. Les fidèles disparaissent du milieu des hommes. On se dit des mensonges les uns aux autres, on a sur les lèvres des paroles flatteuses, on parle avec un cœur double. Que l'Éternel extermine toutes les lèvres flatteuses, les langues qui parlent avec arrogance, ceux qui disent « Nous sommes forts par notre langue, nous avons nos lèvres avec nous, qui pourrait devenir notre maître ?» Parce que les malheureux sont opprimés et que les pauvres gémissent, maintenant, dit l'Éternel, je me lève, j'apporte le salut à ceux qui soupirent après lui. Les paroles de l'Éternel sont des paroles pures, un argent affiné dans un creuset en argile et sept fois épuré. Toi, Éternel, tu les garderas, tu les préserveras pour toujours de ces gens. Les méchants rôdent partout quand la bassesse règne parmi les hommes. Donc dans ce psaume, le psalmiste, le roi David, il commence avec un appel au secours. Sauve-nous, Éternel, car il n'y a plus d'hommes loyaux. C'est un cri du cœur face à la décadence morale. Celui-ci surgit alors que dans son entourage, David relève qu'il n'y a plus d'hommes loyaux, des hommes qui obéissent aux lois, des hommes qui sont fidèles. Et dans ces circonstances, on voit que prolifèrent le mensonge, les paroles flatteuses et les cœurs doubles. Un commentaire disait aussi que forcément David était roi et il devait sûrement avoir bon nombre de personnes qui venaient le solliciter, le flatter, etc., pour avoir ses bénédictions, etc. Et je pense qu'il est parfois tentant de céder à ces choses pour obtenir aussi ce qu'on veut. C'est pourquoi il faut faire preuve de force et d'intégrité pour rester fidèle à Dieu. La sincérité et l'authenticité sont deux qualités qui se font rares aujourd'hui et qui sont appréciables et qui sont précieuses, comparées aux mensonges, aux paroles flatteuses et aux cœurs doubles. À l'image du roi David, je pense qu'aujourd'hui, il est indispensable de crier à Dieu, Sauve-nous, Éternel. Si je regarde l'état du monde actuel et que je regarde autour de moi, j'ai l'impression que rien n'a changé depuis plus de 1000 ans. L'époque du roi David, c'est 1000 ans avant Jésus-Christ, et déjà à son époque, il disait cela. Mensonges, tromperies, paroles flatteuses, infidélités prolifèrent bel et bien encore et toujours. Face à ces situations, le croyant peut se sentir bien seul, et il est vrai que parfois on se demande où sont les hommes fidèles. On le témoignait aussi, on le partageait hier avec, même parmi les chrétiens, je dirais. Et on en parlait aussi justement avec les jeunes hier. C'est important, une paire de chaussettes, ils sont deux. C'est une image de ne pas être tout seul. C'est important d'avoir des gens, en tout cas une personne avec qui on peut parler, discuter, échanger, partager nos difficultés, prier avec. Et donc le fait d'avoir un frère chrétien, un ami chrétien comme il a pu me manquer, je pense que c'est indispensable. Et puis le verset du coup d'Ecclésiaste, il parle aussi de la corde à trois brins. Deux personnes plus une, c'est-à-dire Dieu en fait, qui va unir l'ensemble et qui va faire que c'est fort. Donc c'est une raison pour laquelle je pense que c'est intéressant et important de se réunir ici en église et d'être ensemble, parce que on va se soutenir les uns les autres et on va voilà, on va avancer ensemble et on va profiter les uns aux autres. Et donc le mot qui m'a particulièrement interpellé à la fin du psaume, lorsque je l'ai reçu à la réunion de prière, c'est « les méchants rôdent partout quand la bassesse ». C'est ce mot « bassesse » qui m'a interpellé. Quand la bassesse règne parmi les hommes. Et donc le roi David, il résume une problématique, la problématique de la méchanceté, dans le fait que parmi les hommes règne la bassesse. Voilà, et c'est vrai que ça m'a marqué particulièrement, je crois, parce qu'en fait, quand on regarde l'état de la société actuelle, on peut dire que règne parmi nous la bassesse. Alors, afin de bien comprendre ce que je vais vous partager, on va définir ce que c'est la bassesse. Donc, la bassesse, c'est un état d'infériorité morale. C'est un manque d'élévation dans les sentiments, dans les pensées. C'est l'absence de dignité ou de fierté. En synonyme, on pourrait utiliser les mots abjection, avilissement, compromission, dégradation, laideur, petitesse, servilité, vénalité. Alors j'espère que ces mots vous parlent, mais je ne vais pas les définir tous, mais vous voyez l'idée de la bassesse. Comment expliquer alors que les hommes soient attirés par de telles choses? Des choses basses et des choses qui manquent d'élévation. Je trouve qu'il y a un paradoxe un petit peu dans cette question parce que aujourd'hui, on a accès à tant de choses, on a accès à la connaissance, au savoir, et tout ça, c'est à notre portée. Et la société, elle nous encourage à être toujours plus. Plus intelligent, plus beau, plus fort, plus riche, plus en vue. Et en fait, en gros, toutes ces choses, elles sont censées faire quoi ? Nous élever, nous mettre un petit peu sur un piédestal. Et pourtant, j'ai l'impression qu'à force de courir après toujours plus, eh bien, on n'a jamais fait preuve d'autant de bassesse. Les choses auxquelles nous nous intéressons ont-elles réellement de la valeur? Sont-elles vertueuses? La vertu, c'est la force morale avec laquelle l'être humain tend au bien et s'applique à suivre les règles, la loi morale. Dieu nous appelle à une vie vertueuse. Il nous appelle à une vie extraordinaire, une vie riche, une vie qui sorte du commun. Mais pour ça, aujourd'hui, il faut vivre à contre-courant. On va lire un passage dans Galates 5 qui nous en parle. Galates 5, les versets 13 à 26. Frères et sœurs, c'est à la liberté que vous avez été appelés. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour suivre les désirs de votre nature propre. Au contraire, soyez par amour serviteurs les uns des autres. En effet, toute la loi est accomplie dans cette seule parole, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, attention, vous finirez par vous détruire les uns les autres. Voici donc ce que je dis. Marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de votre propre nature, de votre nature propre. En effet, la nature humaine a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la nature humaine. Ils sont opposés entre eux, de sorte que vous ne pouvez pas faire ce que vous voudriez. Cependant, si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Les œuvres de la nature humaine sont évidentes. Ce sont l'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les haines, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes, l'envie, le meurtre, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui ont un tel comportement n'hériteront pas du royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Contre de telles attitudes, il n'y a pas de loi. Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié leur nature propre avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, laissons-nous aussi conduire par l'esprit. Ne soyons pas vaniteux en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Alors on a vu ce que cherchent les hommes aujourd'hui, et c'est le reflet de ce que l'on voit aujourd'hui dans la société. Adultère, immoralité, impureté, débauche, idolâtrie, magie, colère, jalousie, rivalité, division, envie, excès de table, ivrognerie. Nous courons après des choses. J'avais marqué Ouais, j'avais marqué ça en fait. On court après des choses sans intérêt. Et je me suis corrigé parce qu'en fait, je pense que c'est pas sans intérêt, puisque ceux qui pratiquent ces choses, ils le font aussi dans un but. Assouvir une envie, assouvir un besoin, assouvir envie de grandir, d'évoluer, d'avancer dans les échelons, dans l'échelle de la société. Mais ces choses, en fait, c'est pas qu'elles ont pas d'intérêt, c'est qu'elles manquent de valeur. Elles sont sans élévation. Quand on considère par exemple nos richesses, aujourd'hui pour réussir, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut avoir un bon salaire, une belle voiture, une belle maison, des beaux habits. En fait, pour satisfaire quoi ? Notre ego et en mettre plein la vue aux autres. Convoitise, rivalité, jalousie, orgueil. Et on a fait de ces choses une marque de réussite, comme si c'était ça qu'il fallait pour avoir réussi dans la vie. Alors que Dieu, à l'inverse, nous invite à humilité, amour, entraide, partage. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut aller à contre-courant de ce que la société propose aujourd'hui. Si j'examine encore, par exemple, la notion de fête, qu'est-ce que l'on fait lors de nos festivités ? Boire de l'alcool en abondance ? Fumer à outrance ? Consommer des stupéfiants ? Rire de vulgarité ? Et je juge personne parce que j'ai eu le même attrait pour ces choses. À mes yeux, à l'époque, une soirée réussie, c'était les copains, de l'alcool et du cannabis. Et encore une fois, je crois que, en fait, on aime à nous faire croire que c'est ce qui fait une soirée. Et en fait, on nous leurre petit à petit. Alors pourquoi l'homme est-il intéressé par ces choses ? Pourquoi l'homme se laisse-t-il berner par ces choses ? La seule réponse à cette question est que l'homme est lié au péché et qu'il ne peut se libérer seul de cet esclavage. Nous l'avons vu, c'est à la liberté que nous sommes appelés. Et pour se libérer d'un esclavage, l'homme n'a d'autre solution que de se rendre esclave d'autre chose, de la justice en l'occurrence. Romains 6, versets 16 et 18 nous dit « Ne savez-vous pas que si vous vous livrez à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes les esclaves du maître à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice ?» Mais que Dieu soit remercié, alors que vous étiez esclave du péché, vous avez obéi de tout cœur au modèle d'enseignement auquel vous avez été confié. Et une fois libéré du péché, vous êtes devenu esclave de la justice. Ce passage, il nous a été partagé par Philippe Deboeuf lors d'une réunion de prière aussi, repris la semaine dernière par Jean, et c'est un peu le témoignage de ma vie. Les paroles que j'ai reçues, l'enseignement que j'ai reçu, qu'on m'a instruit depuis mon enfance, c'est ça qui m'a fait revenir à ce que je suis aujourd'hui. C'est-à-dire que je me suis écarté, mais ces paroles que j'avais reçues ont germé dans moi et ont fait écho, même à un moment où est-ce que j'étais au plus bas de ma vie, enfin, en tout cas le plus éloigné de Dieu. Et c'est pour ça que c'est important aussi de les rappeler. Il y a des versets qu'on prend régulièrement, mais c'est pas grave parce qu'en fait, de toute façon, on oublie toujours soit la référence, soit une partie du verset, et c'est bon de se rappeler régulièrement ces versets. C'est ce qui fera salut à notre âme au moment voulu. Bibliquement, bassesse vient de l'hébreu zalal, ce qui veut dire être indigne, être vil, insignifiant, léger, gaspillé ou sans valeur. Je parlerai ici encore des distractions. Frères et sœurs, je voudrais vous encourager à faire attention de ne pas vous attacher à des choses sans valeur. Je crois que cela est une de mes plus grosses craintes. Je suis quelqu'un de très pragmatique et je n'aime pas gaspiller mon temps. Je ne voudrais pas que le temps que je donne à quelque chose soit sans valeur. Je ne peux pas imaginer que ma vie, j'ai passé ma vie à faire quelque chose, à avoir consacré du temps, de l'argent, de l'énergie pour me rendre compte qu'au final, tout cela était vain. Marc 8, versets 35 et 37 nous dit « Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra ». Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme ? Que donnerait un homme en échange de son âme ? À quoi vous sert-il de gagner le monde ? Aujourd'hui, on court après le monde. On court après ce que le monde nous propose. Et on est en train de perdre notre âme. On s'affaire à des bassesses, à des choses sans valeur. Alors je dirais pas qu'il n'y a pas de distractions qui sont saines, car Dieu nous encourage à jouir de la vie, à jouir de ce qu'il nous donne. Et je crois vraiment que Dieu donne des goûts à chacun, et que chacun a reçu des dons différents, et que Dieu prend plaisir à ce que nous faisons. Dieu apprécie lorsque je crée quelque chose de mes mains, lorsque je marche pour admirer sa création, lorsque je jardine, par exemple, des centres d'intérêt que j'ai, mais vous en avez sûrement d'autres. Et il est vraiment important de réfléchir et de choisir à la manière dont nous utilisons notre temps. Rachetez le temps, rachetez vos distractions. Il y a des choses avec lesquelles nous perdons notre temps. Je vais vous témoigner d'un exemple. On est parti habiter à Armentières et pas loin de chez nous, il y avait des petits terrains potagers que des gens utilisaient, puis il y avait des parcelles qui n'étaient pas utilisées. Et pendant longtemps, elles ont été à l'abandon et elles étaient remplies de fougères, de ronces, etc. Ça me dépassait au moins 50 cm, 1 mètre au-dessus de moi. Et moi, par la convoitise de ce terrain, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, moi aussi, je veux un petit terrain. J'avais pas de grand jardin, alors je me suis dit, je vais prendre un terrain là-bas, et puis comme ça, je vais pouvoir le cultiver, y mettre des animaux, y mettre des poules, mettre mes abeilles, etc. Donc je me suis affairé, sué, etc., à dégager tout le terrain, enlever les ronces, j'ai mis des palettes, j'ai délimité le terrain, tout ça, etc. Et puis... je dirais pas que ça m'a pas servi, ce terrain. Il m'a servi. J'ai mis des poules, j'ai mis mes ruches, j'ai mis un peu de choses, etc. Mais peu de temps après, on a déménagé. Et un autre homme qui était à côté à l'IME de Darmentières, il est venu me voir, il m'a dit, ouais, est-ce que je peux le prendre, le terrain, etc., machin et tout, pour mettre mes abeilles, tout ça. Je lui dis, maintenant qu'il est là, vas-y, prends-le, autant qu'il serve à quelqu'un. Mais donc, j'ai mis du temps, de la sueur, de l'énergie dans ce terrain qui, pour au final, ne m'a pas servi beaucoup. Et il a servi à quelqu'un d'autre. Donc, j'ai pas perdu mon temps, mais en tout cas, il ne m'a pas rendu service autant que ce que je lui ai rendu service à ce terrain. Est-ce que je lui ai rendu service? Parce que quand la nature prolifère, l'enlever, est-ce que c'est lui rendre service? C'est un autre débat. C'est une notion que j'aime dans l'Ecclésiaste, particulièrement. C'est un livre que j'aime. C'est parce qu'il parle beaucoup de vanité. Donc on voit dans Ecclésiaste 2, versets 18 et 19, « J'ai haï tout le travail que j'ai fait sous le soleil et dont je dois laisser la jouissance à l'homme qui me succédera. Et qui sait s'il sera sage ou insensé? Cependant, il sera maître de tout mon travail et de tout le fruit de ma sagesse sous le soleil. C'est encore là une vanité. » Alors chaque jour que Dieu nous donne, nous faisons et nous défaisons. On monte et on démonte, on construit et on abat. Chaque jour, on se lève pour manger, on range la table et on recommence. Et parfois, je partage ce genre de réflexion qui m'angoisse parfois à mon épouse. Et elle, qui fait preuve de plus de résignation et de fatalité, elle me répond « C'est la vie, c'est comme ça, elle est faite comme ça. » Et oui, c'est la vie et nous en jouissons. Et gloire à Dieu, nous avons la chance de jouir de la vie. En tout cas, dans tous les cas, j'aimerais vous convaincre de cela ce matin. Veillez à vos occupations et sur ce que vous faites, sur ce que vous choisissez de faire. Car certaines de vos occupations n'ont pas grand intérêt. Et il faut être sage pour savoir et faire preuve de discernement pour reconnaître quand quelque chose doit être ôté de notre vie. Ce que je vais vous dire, c'est investissez pour le Seigneur. Car ainsi, vous ne perdrez pas votre temps. Sachez que tout ce que vous faites pour lui sont des trésors que vous amassez dans le ciel, des trésors éternels. Matthieu 6, verset 19 à 21. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où les mites et la rouille détruisent et où les voleurs percent les murs pour voler. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel où les mites et la rouille ne détruisent pas et où les voleurs ne peuvent pas percer les murs ni voler. En effet, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Je ne sais pas si vous connaissez Covin Thibault. Ça vous parle? Non? Voilà, tout à fait. C'est un grand guitariste français. Et il disait dans un reportage, « Tout ce qui pouvait me détourner de la guitare était dangereux pour moi. Je ne voulais plus trop avoir d'amis parce que ça pouvait me détourner de la guitare. La crainte absolue était de tomber amoureux. Plus tard, j'ai découvert la vraie vie, qui est esquisse, mais plus tard. Un tas de choses viennent supplanter Dieu dans notre vie et viennent nous engourdir moralement. On pourrait parler de la télé, par exemple. Les programmes que l'on regarde, sont-ils tous bons? Combien de temps nous prennent-ils? Que nous apportent-ils? Je ne dis pas qu'on ne peut pas regarder un bon film et en tirer satisfaction. Certains films que j'ai regardés m'ont profondément marqué et m'ont permis sûrement de comprendre certaines choses, d'éprouver une émotion particulière qui m'a permis de comprendre une vérité biblique. Mais je dois bien reconnaître que j'ai regardé bon nombre de films qui n'ont pas eu grand intérêt dans ma vie et certains même que je n'aurais probablement pas dû regarder. On pourrait parler de ce que l'on suit sur Internet, des influenceurs auxquels on est abonné. Et c'est facile de s'éparpiller dans la vie. C'est pourquoi il faut savoir se recentrer sur l'essentiel, sur ce qui est vraiment important, sur ce qui est de la valeur, sur ce qui a de la valeur. Fuyez ce qui vous détourne de Dieu. Je prends cet exemple du téléphone, mais on a un premier influenceur qu'on suit, et puis après on rebondit sur un deuxième, etc. Et puis quand on regarde notre téléphone, du coup on suit les stories de chaque influenceur, etc. Et ça nous mange au début 5 minutes, puis 10, puis 15, etc. Et donc petit à petit, ces choses prennent de plus en plus d'ampleur dans notre vie, et tout ce qu'on regarde, tout ce que l'on suit, tout ce que l'on fait va influencer qui nous sommes. C'est pour ça que il faut investir au maximum pour le Seigneur, donner du temps pour le Seigneur. Et moi-même, je le témoigne aussi, je ne suis jamais aussi bien avec Dieu que quand je suis près de lui, que quand je fais des choses pour lui, quand il travaille, enfin quand il m'utilise dans son travail. Alors le contraire de la bassesse, il faut comparer les choses au contraire, à leur contraire. Le contraire de la bassesse, c'est beauté, dignité, générosité, grandeur, maniabilité, noblesse, pureté, fierté, élévation, délicatesse, sublimé, action d'éclat et haut fait. Vous remarquerez que cela nous fait penser aux fruits de l'esprit que nous avons lus dans Galates 5. Dans la Bible, il y a réellement une opposition entre les choses d'en haut et les choses d'en bas. Dès la création du monde, Dieu a fait une séparation entre les choses d'en haut et les choses d'en bas. Il a séparé la lumière des ténèbres, le jour et la nuit, et il a fait une séparation, il a fait des opposés. On va lire un passage assez long que je vais demander à quelqu'un de lire. Éphésiens 4, 17 à 5, 21. Est-ce que quelqu'un peut prendre Éphésiens 4? J'aime beaucoup quand j'ai... Comme ça, le Seigneur me met à cœur, je crois vraiment que le Seigneur nous met à cœur des choses et qu'il nous met à cœur des choses à partager. Et j'aime beaucoup quand, en fait, au final, je dois me taire devant la parole. Parce qu'en fait, là, on va lire plusieurs passages et des fois, je me dis, mince, ils vont trouver ça long de lire des passages comme ça complets, tout ça, etc. Mais en fait, comment exprimer mieux que ce que la parole de Dieu le fait? Et je ne peux pas prendre la parole quand le verset, quand le passage, du coup, exprime carrément mieux que moi-même ce que je peux faire. La vérité biblique que j'essaye de vous partager. Donc, Éphésiens 4, 17 à 5, 21. Est-ce que quelqu'un l'a? Ouais. Ah, bien sûr, tout à fait. Bien fort, s'il te plaît. Tu peux même te lever si tu veux.
Voici donc ce que je dis et ce que j'affirme dans le Seigneur. Vous ne devez plus vous conduire comme les non-croyants qui se laissent guider par la sottise de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ils ont perdu tout sens moral et se sont livrés à la débauche pour commettre avec avidité toutes sortes d'impuretés. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris à connaître Christ. Si du moins c'est lui que vous avez écouté, et si c'est en lui que vous avez été enseigné, conformément à la vérité qui est en Jésus. On vous a enseigné à vous débarrasser du vieil homme qui correspond à votre ancienne manière de vivre et se détruit sous l'effet de ses désirs trompeurs, à vous laisser renouveler par l'esprit dans votre intelligence et à vous revêtir de l'homme nouveau créé selon Dieu dans la justice et la sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi, vous débarrassant du mensonge, dites chacun la vérité à votre prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne laissez aucune place au diable. Que celui qui volait cesse de voler, qu'il se donne plutôt la peine de travailler honnêtement de ses propres mains pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'aucune parole malsaine ne sorte de votre bouche, mais seulement de bonnes paroles qui, en fonction des besoins, servent à l'édification et transmettent une grâce à ceux qui les entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été marqués d'une empreinte pour le jour de la libération. Que toute amertume, toute fureur, toute colère, tout éclat de voix, toute calomnie et toute forme de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons et pleins de compassion les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu nous a pardonnés en Christ. Soyez donc les imitateurs de Dieu puisque vous êtes ses enfants bien-aimés. Et vivez dans l'amour en suivant l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est donné lui-même pour nous comme une offrande et un sacrifice dont l'odeur est agréable à Dieu. Que l'immoralité sexuelle, l'impureté sous toutes ses formes ou la soif de posséder ne soient même pas mentionnées parmi vous comme il convient à des saints. Qu'on n'entende pas de paroles grossières, de propos stupides ou équivoques, c'est inconvenant, mais plutôt des paroles de reconnaissance. Vous le savez bien en effet, aucun être immoral, impur ou toujours désireux de posséder plus, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous trompe par des paroles sans fondement, car c'est pour cela que la colère de Dieu vient sur les hommes rebelles. N'ayez donc aucune part avec eux, car si autrefois vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Conduisez-vous comme des enfants de lumière. Le fruit de l'esprit consiste en effet dans toute forme de bonté, de justice et de vérité. Discernez ce qui est agréable au Seigneur et ne participez pas aux œuvres stériles des ténèbres, mais démasquez-les plutôt. En effet, ce que ces hommes font en secret, il est même honteux d'en parler. Mais tout ce qui est démasqué par la lumière apparaît clairement, car tout ce qui apparaît ainsi est lumière. C'est pourquoi il est dit « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. » Faites donc bien attention à la façon dont vous vous conduisez. Ne vous comportez pas comme des fous, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas stupides, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, cela mène à la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Dites-vous des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels. Chantez et célébrez de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Remerciez constamment Dieu le Père pour tout au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Dieu.
C'est bon, merci. Alors, je ne sais pas pour vous, mais ici est résumé l'ensemble de mon message. Et il a repris dans ses paroles ce que j'ai pu vous partager jusqu'ici. On voit que les hommes se livrent à la sottise de leurs pensées, qui se détruisent au travers de ce à quoi ils se livrent. Et on a des encouragements vraiment à rechercher les choses qui sont d'en haut. Il y a un autre passage qui est dans Colossiens 3, 1-17, mais je ne vais pas tout vous relire parce qu'il reprend aussi les choses qui nous font mourir, ce qui est terrestre, l'immoralité sexuelle, etc. Mais en tout cas, il nous dit « Recherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux réalités d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. En effet, vous avez connu la mort et votre vie est cachée en Christ, en Dieu, avec Christ en Dieu. Quand Christ, notre vie, apparaîtra, alors vous apparaîtrez aussi avec lui dans la gloire. » Recherchez les choses d'en haut pour être assis avec Dieu dans la gloire, là où nous sommes déjà assis dans les lieux célestes avec Christ quand nous donnons notre vie au Seigneur. Fuyez les choses mondaines, les choses sans valeur, et recherchez les choses d'en haut. N'aimez pas le monde et ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour de Dieu n'est pas en lui. En effet, tout ce qui est dans le monde, la convoitise qui est dans l'homme, la convoitise des yeux et l'orgueil dû aux richesses, vient non du Père mais du monde. Or le monde passe, sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Quand je vous disais que les choses sans valeur vont nous faire trépasser, alors qu'à l'inverse, les choses célestes, les choses hautes, les choses d'en haut vont nous permettre de vivre et de demeurer éternellement. Vivez pour honorer Dieu. Cherchez les choses d'en haut. Nous venons de lire tous ces passages et on vient de partager un moment ensemble à parler de la bassesse. Laissons de côté les choses basses et concentrons-nous sur les choses qui ont de l'intérêt, sur les choses qui sont valeureuses, qui sont vertueuses. Quand même lire encore un passage, Éphésiens 2, 1 à 10. Quant à vous, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés, que vous pratiquiez autrefois conformément à la façon de vivre de ce monde, conformément au prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui est actuellement à l'œuvre parmi les hommes rebelles. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Notre conduite était dictée par les désirs de notre nature propre, puisque nous accomplissions les volontés de la nature humaine et de nos pensées, et nous étions, par notre condition même, destinés à la colère comme tous les autres. Mais Dieu est riche en compassion. À cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il a fait cela afin de montrer dans les temps à venir l'infinie richesse de sa grâce par la bonté qu'il a manifestée envers nous en Jésus-Christ. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. En réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Tout est grâce, tout est don, votre vie est un don. Et la grâce que le Seigneur vous fait, la liberté qu'il vous a acquise, est un cadeau que vous pouvez recevoir gratuitement, sans avoir de choses à faire en contrepartie. C'est un cadeau immérité que le Seigneur nous donne, à nous de le saisir. Et Dieu a préparé des choses bonnes, des œuvres bonnes, afin que l'on pratique ces choses. Alors ne soyons pas comme à l'époque des Juges, où il n'y avait pas de roi en Israël, et chacun faisait ce qui lui semblait bon. Il faut avoir la crainte de l'Éternel. Tout le monde est juste à ses propres yeux si tout le monde se fait sa propre justice. Et si on n'a pas une base commune, on ne peut pas savoir ce qui est bon pour tout le monde en fait. Et nous avons la chance de connaître Dieu et de pouvoir agir pour le bien. Bien sûr, dans notre marche, nous ferons des erreurs. Il y aura des faux pas, il y aura des déviations. Mais nous devons poursuivre cette marche de sanctification avec Dieu. Alors je vous donnerai quelques exemples d'applications simples pour vos vies. Redéfinissez ce qui a de la valeur. Supprimez les bassesses de vos vies. Arrêtez de regarder des émissions de télé-réalité, de critiques. Sélectionnez plutôt votre programme pour qu'il vous élève au lieu de vous amoindrir. Désabonnez-vous des influenceurs que vous suivez, qui ont des propos incorrects et qui font des mauvais choix ou qui sont de mauvaises influences. Fuyez l'immoralité et recherchez les choses d'en haut. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Qu'avez-vous à gagner en dehors de Christ ? On voit aussi dans le verset que l'on a lu que le Seigneur ne laisse pas faire ça et que celui qui crie à Dieu, Dieu l'entend, Dieu l'écoute et Dieu intervient. Je vais prendre un passage qui se trouve dans Jacques. Jacques chapitre 4. D'où viennent les conflits et d'où viennent les luttes parmi vous ? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres ? Vous désirez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier et jaloux et vous ne pouvez rien obtenir. Vous avez des luttes et des conflits. Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Quand vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour pour le monde est synonyme de haine contre Dieu ? Celui donc qui veut être l'ami du monde se fait l'ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle sans raison ? C'est avec jalousie que Dieu aime l'Esprit qui habite en vous. Cependant, la grâce qu'il accorde est plus grande encore, c'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles ». Soumettez-vous donc à Dieu, mais résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il se rapprochera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes partagés. Ayez conscience de votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Ne dites pas du mal les uns des autres, frères et sœurs, celui qui parle contre un frère ou qui juge son frère parle contre la loi et juge la loi. Or si tu juges la loi, tu ne la mets pas en pratique, mais tu t'en fais le juge. Un seul est législateur et juge, c'est celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu pour juger ton prochain ? À vous maintenant qui dites « Aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous y ferons des affaires et nous gagnerons de l'argent. » Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain. En effet, qu'est-ce que votre vie ? C'est une vapeur qui paraît pour un instant et qui disparaît ensuite. Vous devriez dire au contraire « Si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. » Mais en réalité, vous vous montrez fiers de vos fanfaronnades. Toute fierté de ce genre est mauvaise. Si donc quelqu'un sait faire de ce qui est bien et ne le fait pas, il commet un péché. J'avais encore d'autres passages, mais je vous laisserai avec ce passage-ci, qui résume aussi le choix que l'on doit faire et ce à quoi nos cœurs doivent se porter. Vous voyez que vos désirs sont parfois contradictoires, ils sont mauvais. Et il faut se tourner vers Dieu pour qu'il vous accorde de nouveaux désirs. Ce que je retiendrai aussi, c'est Dieu qui rend capable ces choses en nous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Ne tentez pas de faire des choses par vous-même parce que vous n'y arriverez pas. Évitez les fanfaronnades, comme il est marqué. Voilà, et soyez humbles, humiliez-vous devant Dieu. Reconnaissez votre petitesse, votre bassesse, et Dieu vous élèvera. L'inverse de... S'élever, c'est s'humilier, et quand on commence à s'humilier, Dieu nous élève. Voilà ce que je voulais vous partager ce matin. Si toutefois vous avez envie de relire les références, n'hésitez pas à me les demander, je peux vous les partager. Il n'y a pas de souci, comme ça vous pouvez relire ça chez vous, et puis vous pouvez aussi retravailler sur ce sujet. Mais voilà ce que Dieu m'a mis à cœur. Dieu m'a mis à cœur ce mot « bassesse ». Et c'est vrai que des fois, quand je regarde autour de moi et quand je regarde moi-même des fois à certaines choses, je me dis, on concentre des fois nos espoirs, notre énergie sur des choses qui sont sans intérêt, sans valeur. Alors que Dieu, nous avons accès à lui et que tout ce que Dieu nous donne et tout ce qui vient de Dieu, tout ce qu'on peut faire pour lui est riche et à l'inverse de la bassesse. Au contraire, ça nous élève, ça nous permet de grandir, de croître, etc. Dans les soirées, etc., je me disais, je ne comprends pas pourquoi pendant tant d'années, j'ai voulu m'abaisser à tant de choses. En fait, je me dis, mince, pourquoi on veut enivrer notre esprit ? Pourquoi on veut avilir notre esprit en fumant des choses qui nous rendent mal, qui nous mettent mal à l'aise, etc. Alors que du coup, on disait hier avec Esteban aussi, justement, on voit que quand on est dans des groupes de jeunes comme ça, on fait des choses qui sont saines, on fait des choses qui sont bien et on est dans la joie, on en profite, on en jouit et c'est ça qui est bon. Alors pourquoi on est berné par la société ? Pourquoi on nous fait croire que consommer de l'alcool, faire des bêtises, avoir des propos vulgaires, etc., c'est ça qui est rigolo ? Non, c'est pas ça qui est rigolo. Ne vous faites pas berner par le monde et ressaisissez, reprenez possession de votre vie, de cette vie de extraordinaire, cette vie de richesse que Dieu nous donne accès. Voilà, moi j'espère en tout cas, parce que je l'ai dit, il y aura des détours dans nos vies, il y a des fois où est-ce qu'on va rechuter, on va tomber, etc. Mais attachons-nous à ces choses d'en haut, à ces choses où est-ce que du coup on sait qu'on aura un trésor éternel. Le dernier passage, il nous dit aussi que notre vie, elle passe. Il faut racheter le temps parce que notre vie, c'est un souffle, on ne sait pas de quoi demain sera fait. Moi j'ai eu un accident récemment, gloire à Dieu, c'est que du matériel. Je disais aussi hier aux jeunes, c'est des soucis qui viennent s'ajouter tout aussi, mais il faut savoir voir le bon côté des choses. Dieu m'a préservé, au travers de cette difficulté, je vais apprendre ma voiture, comment elle fonctionne, etc. Je vais apprendre à connaître des choses sur mon véhicule, je vais rencontrer des gens, etc. C'est des opportunités. Faut pas voir ça comme quelque chose de négatif, mais c'est aussi des opportunités que Dieu nous permet de vivre. Et c'est l'opportunité aussi peut-être de témoigner à d'autres personnes. Mon forçage vocal, l'autre jour, j'ai pu chanter « Si dans ta vie, il y a parfois de gros soucis ou des ennuis, des choses que tu ne comprends pas ». On va le chanter. J'ai chanté ça parce qu'elle me demandait, la dernière fois, elle m'avait demandé de chanter un chant avec une note assez aiguë pour savoir la note à laquelle je voulais récupérer. Et j'ai été bloqué, elle m'a pris à dépourvu, j'avais pas de chant. Et donc, du coup, la dernière, là, quand j'ai été cette semaine, je lui ai dit, j'ai un chant à vous chanter si vous voulez. Alors, je sais pas ce que ce chant va faire dans son cœur. J'espère que Dieu lui fera grâce et que, en tout cas, il y avait un intérêt. Elle se questionnait du fait d'un jeune comme moi qui chante, etc. C'est une jeune, mon orthophoniste. Et j'espère que Dieu lui fera grâce. On va chanter ce chant. Alléluia. Plus ça va, plus je m'émeux. Gloire à Dieu. Si dans ta vie y a parfois de gros soucis, des choses que tu ne comprends pas, un accident, une maladie, un examen difficile, lève les yeux, regarde ton Dieu. C'est lui qui te parle maintenant. Non, ne crains rien, car je suis avec toi. Je suis ton Dieu, je viens à ton secours. Oui, dans ta vie, y a souvent des joies aussi. Frères et sœurs, que vous puissiez lever les yeux et crier à lui, comme on l'a lu dans le psaume, crier que l'Éternel vous sauve. Amen.